les soirs, Bel RTL vous offre toute la musique que vous aimez. Confidentiel sur RTL.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur RTL. On passe une heure ensemble pour découvrir la face cachée d'une personnalité. Bienvenue dans Confidentiel. Ce soir, c'est le dénouement de la 68e édition du concours de l'Eurovision. Bonne chance à notre candidat français Slimane qui nous représente avec sa chanson Mon Amour. Je rappelle que l'an passé, c'est la Suédoise Laurine qui a gagné cette année. La cérémonie se déroule donc en Suède, à Malmö. Hasard ou pas, cette année, on fête les 50 ans de la victoire d'un groupe mythique à l'Eurovision. Je parle bien sûr d'ABBA, des Suédois. Donc, un Eurovision en Suède pour l'anniversaire des 50 ans de la victoire d'ABBA, forcément, ça marque. La grande question, c'est vont-ils se reformer exceptionnellement sur scène ce soir? Pour le moment, le groupe a dit non. Peut-être apparaîtront-ils différemment. Il faut le dire, nombreux sont ceux qui en rêvent, car oui, même si Waterloo c'était en 74, ABBA reste un incontournable. Derrière ce groupe unique se cache une autre histoire, l'amour de deux couples que le succès a fini par un peu abîmer. Alors aujourd'hui, Confidentiel vous plonge dans ABBA intime avant de recevoir les deux plus grands spécialistes du groupe mythique suédois, Jean-Marie Potier et André Thor.
Confidentiel RTL. Ophélie Meunier.
On est le 6 avril 1974 à Brighton, au Royaume-Uni. C'est depuis ici, dans le sud de l'Angleterre, qu'est diffusée l'émission la plus populaire au monde, un concours de chansons internationales qui oppose 18 nations européennes, l'Eurovision. Ce soir-là, c'est pas moins d'un demi-milliard de téléspectateurs qui sont réunis devant leur poste. Depuis sa création dans les années 50, le concours Eurovision fait plutôt la part belle aux musiques traditionnelles et à la variété locale, avec une ambiance de soirée de gala, vous avez l'image. Les artistes portent des nœuds papillons ou de longues robes de soirée. La plupart des participants proposent des chansons dans leur langue, comme cette année-là à l'Allemagne. Ou l'Italie. En cette année 74, le pays hôte, le Royaume-Uni, fonde tous ses espoirs dans une jeune chanteuse prometteuse, une certaine Olivia Newton-John. Long, long live love, love is to care. Mais là encore, même pour l'époque, je rappelle qu'on est au milieu des années 70 et que les jeunes Anglais écoutent plutôt les Beatles, les Who ou les Rolling Stones. Ce titre sonne comme un peu suranné, un peu dépassé, pour ne pas dire complètement ringard, en décalage complet avec son temps. C'est donc dans ce contexte que débarque un groupe totalement inconnu, venu d'un pays dont la musique a bien du mal à sortir de ses frontières et qui n'a jusque-là jamais brillé dans cette compétition, j'ai nommé la Suède. Le groupe s'appelle ABBA. Et en moins de 3 minutes, ces 4 Scandinaves vont complètement dépoussiérer l'Eurovision, tout en réussissant l'exploit de conquérir le jury et 500 millions de personnes bouche bée devant leur télévision. ABBA frappe un grand coup et remporte haut la main la compétition. Mais surtout, le groupe est en train de faire bien plus. Avec leur musique pop-rock et leurs paroles en anglais, les Suédois s'apprêtent à marquer l'histoire de la musique. En ce soir du 6 avril 1974, ABBA et son Waterloo viennent en effet de conquérir le monde. Et cela ne doit rien au hasard. Car derrière cette incroyable victoire se cache un homme qui a tout prévu. Stig Andersson, le parolier et le producteur d'ABBA. C'est lui qui a pressenti le potentiel de ces quatre-là et qui a voulu en faire des stars mondiales. Avant même que le groupe ne chante à l'Eurovision, il a signé des contrats un peu partout pour que le single Waterloo soit en place dans les bacs aussitôt après le concours. Résultat, dès le lendemain de l'émission, toutes les télévisions d'Europe se les arrachent et les ventes s'envolent. Waterloo s'écoulera à 7 millions d'exemplaires. C'est énorme. En une nuit, ABBA vient de révolutionner le business de la musique. En cette année 2024, à l'occasion des 50 ans de sa victoire à l'Eurovision, retour sur la saga d'un groupe de légende qui a vendu près de 400 millions d'albums, composé des tubes indémodables et qui constitue aujourd'hui encore l'un des phénomènes musicaux les plus importants depuis les Beatles. Une réussite insolente qui cache aussi une face sombre et des drames intimes entre quatre artistes qui avaient bien plus que la musique en commun. Car l'histoire d'ABBA, acronyme d'Agnetha, Benny, Björn et Annifrid, c'est aussi celle d'une double histoire d'amour entre deux chanteuses et deux musiciens de génie, celle d'Agnetha et Björn, et celle aussi de Benny et Annifrid. Deux couples qui connaîtront ensemble la lumière, mais qui finiront l'un après l'autre par être usés par une décennie de triomphes planétaires. Comme si la fin de leurs idylles était, quelque part, le prix à payer sur l'autel du succès. La rançon de la gloire. ABBA, la défaite de l'amour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidentiel. En ce milieu des années 70, les membres d'ABBA se sont mis en tête de conquérir le monde, c'est que la plupart d'entre eux avaient déjà conquis la Suède. En effet, avant de triompher à l'Eurovision 74, Agnetha, Benny et Björn sont déjà des stars dans leur pays. On est en juin 1966, à Halleberg, dans le sud de la Suède. Les Hepstars, le plus grand groupe de pop suédoise de l'époque, se produit là dans le cadre d'un festival installé au sommet d'une colline, en pleine campagne. Ils viennent de sortir un titre, Wedding, un morceau écrit par leur claviériste joufflu, tout juste âgé de 19 ans, un certain Benny Andersson. Alors que le groupe vient de terminer son concert et quitte les lieux au volant d'une luxueuse voiture américaine, il tombe nez à nez sur l'étroite route de campagne qui mène au site avec une autre voiture. Une vieille Volvo remplie à ras-bord d'instruments. À l'intérieur, un groupe rival, The Hootenanny Singers. Un groupe dont le leader de 21 ans s'appelle Björn Ulvaeus. Les deux formations ne se connaissent que de réputation, mais ils échangent rapidement à travers la vitre. Les Hepstars lancent. On fait une fête ce soir, pourquoi vous ne viendriez pas nous rejoindre après votre concert ? La fête bat donc son plein quand Benny et Björn, les deux auteurs-compositeurs de leur groupe respectif, font connaissance autour d'un verre. Björn dit à Benny tout le bien qu'il pense de son morceau, Wedding, qui caracole en tête des charts suédois. Et visiblement, ils ont beaucoup en commun. Les deux jeunes gens partagent une même vision du monde et de la musique. Une complicité immédiate les unit. Un véritable coup de foudre amical. Avant de se quitter, ils se promettent de travailler un jour ensemble. Quelques semaines se passent. Ils se retrouvent au hasard d'une autre soirée et profitent de l'occasion pour s'isoler avec une guitare et écrire leur premier morceau. Eh bien, c'est une révélation. Ces deux-là sont faits pour travailler ensemble. Leur amitié naissante se révèle être une symbiose créative extrêmement fertile qui ne va pas tarder à faire ses preuves. 3 ans plus tard, en mai 1969, Benny et Björn sont de nouveau en voiture. Les deux amis, désormais inséparables, sont en route vers la côte suédoise où Björn doit participer à une émission de télévision. Une émission à laquelle participe également une jeune blondinette de 19 ans qui depuis 2 ans est la coqueluche des Suédois, Agneta Falskog.
Så titta in i min lilla kajuta, genom hjärtat så kärleken stör.
Dans ce décor de port de pêche, de maisonnettes de bois rouge et de champs de marins, on peut difficilement faire plus suédois, Agneta et Björn tombent littéralement amoureux l'un de l'autre sous les yeux des téléspectateurs. C'est le coup de foudre, le vrai. Agneta et Björn emménagent ensemble dès le lendemain. Alors Benny ne tient pas la chandelle pour autant, car 2 mois auparavant, en mars 69, lui et Björn ont fait la rencontre d'une jolie brunette au rire contagieux dans un restaurant. Elle s'appelle Annifrid, mais tout le monde l'appelle Frida. Elle aussi est chanteuse de jazz, mais sa carrière est plutôt au point mort, sans parler de sa vie personnelle. À 24 ans, Frida est une mère célibataire de 2 enfants qui connaît les pires difficultés pour joindre les deux bouts. Benny et Frida se sont revus à l'occasion d'une émission de radio. Ils ont dîné ensemble ensuite, le courant est tout de suite passé. Benny aussi a des enfants, bon, vous me voyez venir. Les deux tourtereaux se fiancent au mois d'août 1969, suivis par Agneta et Björn. Côté travail, Benny et Björn sont désormais producteurs pour la maison de disques de Stig Anderson, Polar Music. Et preuve que leur amitié est solide, il n'y avait qu'une seule place de producteur, mais Benny tenait tellement à travailler avec son ami qu'il a accepté de partager son salaire avec lui. On est donc en avril 70, quand les 4 amis, qui pour l'instant ont une carrière chacun de leur côté, vous l'avez compris, s'envolent pour Chypre pour célébrer les fiançailles d'Agneta et Björn. Les guitares aussi sont du voyage. Difficile à croire, mais les deux couples d'amis n'ont pour l'instant jamais réellement imaginé travailler ensemble. Ils passent leur temps libre les uns chez les autres, mais les 4 ensemble, personne n'y avait encore pensé. Et Chypre va tout changer. Sur place, ils donnent quelques petits concerts à droite à gauche, et lors de ces soirées à la douceur toute méditerranéenne, presque par hasard, ils constatent comment leur voix à tous les 4 s'accorde à merveille. Agneta est soprano, Frida, mezzo-soprano, elle peut chanter dans un registre plus grave, et leurs voix combinées donnent aux auteurs-compositeurs que sont Benny et Björn des perspectives inédites. De retour en Suède, l'idée fait son chemin, et les garçons écrivent un premier morceau, People Need Love. Anderson, le patron de Polar Music, lui aussi est emballé par les premiers pas de Agneta, Benny, Björn et Annifrid. Il accepte de produire un disque, à condition qu'il chante en anglais. Et oui, il pense déjà au marché international. 2 ans plus tard, en 1972, sort donc Ring Ring, le premier album de Björn, Denny, Agnetha et Annie Frid. Bon, faut bien l'avouer, c'est un peu long et pas très vendeur. Les radios elles-mêmes ne s'y sont pas trompées. Quand elles passent People Need Love, elles parlent d'ABBA, l'acronyme de leurs quatre prénoms. C'est évidemment bien plus simple à annoncer. À la maison de disques, de toute manière, on n'a pas une meilleure idée. ABBA a beau être le nom d'une grande conserverie de poissons en Suède, oui, oui, va pour ABBA. Côté vie privée, Björn et Agnetha, qui se sont mariés en 71, attendent leur premier enfant, Linda. Cette maternité rapproche les deux femmes du groupe, qui ont 5 ans de différence d'âge et des expériences de vie diamétralement opposées. La complicité de leur compagnon, elle, est toujours aussi indéniable. À Stockholm, les deux couples vivent à 2 minutes l'un de l'autre, et quand arrivent les beaux jours, tous se rendent sur l'île de Vixå, un petit paradis scandinave au large de la capitale, où Benny et Frida ont acheté un petit chalet, puis Björn et Agnetha. On y vient, les deux familles, vous l'avez compris, sont inséparables. Benny et Björn s'adonnent à la composition quand Frida et Agnetha cocoonent leurs enfants. Le claviériste a aménagé une petite dépendance sur les hauteurs de son jardin dans lequel il a installé un piano. Le rituel est toujours le même. Le matin, après le petit déjeuner, Benny rejoint le cabanon qui surplombe la baie. Björn, de son côté, en entendant les notes du piano au loin, sait que c'est le signal. Il prend sa guitare et il rejoint son compagnon un café à la main. C'est là, en cette année 73, que le duo va écrire un titre endiablé. Stig Anderson, leur producteur, en est persuadé. Ce morceau est un tube en puissance. On leur a proposé de soumettre une chanson pour l'Eurovision. L'occasion est trop belle pour faire éclater le talent du groupe au grand jour. Reste à lui trouver un titre. Il faut qu'il soit court, qu'il soit en anglais et qu'il parle à tout le monde. Ce sera Waterloo. Avant la défaite de l'amour, ce sera donc celle de Napoléon qui fera connaître ABBA dans le monde entier. Vous écoutez Confidentiel sur le groupe ABBA. Restez avec nous, on revient tout de suite sur RTL.
RTL Confidentiel. Ophélie Meunier.
Hanging in the air.
Ophélie Meunier.
Avec Waterloo, ABBA remporte le concours de l'Eurovision 1974 et débarque en force sur les ondes et chez les disquaires. Dans les semaines qui suivent, le nom d'ABBA est sur toutes les lèvres, on les voit un peu partout. Sauf que le matraquage de Waterloo finit par avoir un effet inattendu. Le groupe se retrouve vite catalogué trop Eurovision. En Suède ou au Royaume-Uni, on les juge bientôt trop commercial. Pour beaucoup, l'album Waterloo n'est pas à la hauteur de leur tube. Les autres singles ne marchent pas, les radios les boudent. ABBA ne serait-il finalement que le groupe d'un seul titre ? Agnetha, Björn, Benny et Frida sont agacés par l'accueil glacial que leur réserve leur nouvelle célébrité mondiale. Benny et Björn ne supportent pas de ne pas être pris au sérieux, en particulier dans les maisons de disques londoniennes. Alors ABBA décide de prendre les choses en main. Ils le savent, leur point fort réside dans la qualité de leurs chansons, dans leur écriture. Alors Björn et Benny retournent s'enfermer à Vixå, la petite île, vous savez, au large de Stockholm. Et là, dans le petit cabanon, les deux garçons sont infatigables. Ils composent 3 ou 4 morceaux par jour. Leur inspiration leur vient autant des Beatles, qu'ils révèrent, que de la musique traditionnelle scandinave, allemande ou même italienne. Leur érudition leur ouvre tous les possibles quand il s'agit de composer. Surtout que les filles et leur voix rendent tous leurs fantasmes réalisables. Alors Björn et Benny se lâchent. C'est comme ça, dans la sérénité et en pleine nature, que le duo écrira son nouvel album, simplement intitulé « ABBA ». De retour à Stockholm, les deux auteurs-compositeurs, qui sont aussi producteurs, ne comptent pas leurs heures pour restituer la qualité de leurs titres et la beauté des voix de leurs interprètes féminines. Ils multiplient les prises pour donner de l'épaisseur, ils travaillent sans relâche, passent leur temps à essayer de nouvelles choses. Ça bosse dur. Benny et Björn n'hésitent pas non plus à pousser Agnetha et Frida dans leur retranchement vers des notes toujours plus aiguës ou des harmonisations vocales toujours plus complexes. Devant la pression et l'exigence de leurs compagnons, il n'est pas rare que les filles craquent. Des tensions apparaissent au sein des deux couples, comme dans le groupe. Frida jalouse un peu les parties qu'offrent Benny et Björn à Agnetha, mais c'est ici en studio, à l'aide d'un ingénieur du son, fan de Phil Spector et de son mur du son, qu'ABBA finira par trouver le sien. Un son si particulier, puissant, dansant et mélodieux qui le définira bientôt. Le résultat est là. Quand l'album ABBA sort en 1975 avec des titres comme Mamma Mia ou SOS, les Suédois font leur retour dans les charts. On les plébiscite désormais en Angleterre ou en Australie, où l'album fait un tabac. Mais les membres d'ABBA, qui ont toujours préféré le confort des studios à la fatigue des tournées, ne sont pas encore prêts à s'envoler à l'autre bout du monde. Alors jaillit l'idée, écoutez bien, d'envoyer à leurs fans australiens des petits films dans lesquels ils se mettraient en scène. Une idée qui va tout simplement révolutionner le business de la musique, le fameux vidéoclip. Car le groupe se distingue de plus en plus pour son sens de l'innovation en matière de marketing. On leur reproche bientôt de faire des albums uniquement pour l'argent. Il faut dire qu'en 1975, un an seulement après l'Eurovision, un best-of et un greatest hit ont vu le jour. Là encore, on se les arrache. Et en un rien de temps, ABBA multiplie les disques d'or. Pour leur promotion, les émissions de télévision auxquelles ils participent se font désormais toujours en playback. Le playback, ça a plusieurs avantages. Pas de stress. Les 4 ABBA sont toujours très nerveux avant un concert. Pas de balance, son. Et surtout, pas de temps perdu. Car Agnetha supporte de plus en plus mal de s'éloigner de chez elle et de sa fille. Quelques mois auparavant, après s'être absentée 2 semaines, la petite Linda, quand sa mère revient, ne veut pas quitter les bras de sa nounou. Elle est distante avec elle. Agnetta restera marquée par ce moment. Sur les plateaux de télévision, Abba arrive donc à la dernière minute et repart aussitôt. Tout est fait pour qu'ils passent le moins de temps possible loin de chez eux. Et pas question de faire une exception, même s'il s'agit du roi de Suède en personne qui le demande. Dans un instant sur RTL, la suite de Confidentiel sur Abba. Et puis je recevrai mes invités, Jean-Marie Potier et André Torrent, biographe et journaliste musical, tous les deux grands spécialistes du groupe mythique suédois.
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
Juin 1976 à l'Opéra Royal de Stockholm. C'est dans ce décor digne de Sicile impératrice que le jeune roi de Suède, Karl XVI, a décidé de donner, en l'honneur de son mariage avec la reine Sylvia, un gala retransmis dans tout le pays. L'ambiance est plutôt classique et à l'opéra, mais le monarque aimerait aussi que le plus grand groupe du pays soit là. Difficile de faire une invitation plus prestigieuse en Suède. Seul hic, il faut chanter en direct. C'est hors de question pour Abba, même pour le roi. Le groupe menace même de ne pas participer au concert. Les organisateurs finissent par céder, et voilà nos quatre Suédois habillés de redingotes et de robes à corset se présenter devant le couple royal pour leur chanter. Ce morceau Dancing Queen Benny et Bjorn attendaient le bon moment pour le sortir de leur tiroir. Car ils en sont persuadés, ça va être un hit, c'est sûr. Frida, la première fois qu'elle l'a entendu, elle était si touchée qu'elle a fondu en larmes. Du coup, ABBA a passé pas moins de 5 mois en studio à peaufiner le titre. Pas question donc de louper son lancement devant le pays entier. L'album sur lequel figure Dancing Queen, Arrival, sort en août 1976. Et c'est un succès planétaire immédiat. Il occupera la première place un peu partout. Pour la première fois, ABBA est même classé en tête des ventes d'albums aux États-Unis. Arrival confirme qu'ABBA est bien le plus grand phénomène pop du moment. Pour couronner ce succès, le groupe, qu'on critique ouvertement pour ses très rares concerts, se lance en 1977 dans une tournée en Europe, Norvège, Danemark, Allemagne de l'Ouest et évidemment Angleterre. À Londres, plutôt que dans le stade de Wembley, le groupe préfère se produire au Royal Albert Hall pour 4 soirées consécutives. Sur les 3,5 millions de demandes de billets, seules 12 000 personnes pourront assister au spectacle. ABBA aurait pu encore se produire 600 fois dans cette salle, tellement la demande est grande. En 1977, les ABBA s'envolent pour l'Australie. À peine ont-ils mis le pied sur le tarmac que la foule ne les quitte plus. En effet, le pays vit une véritable ABBA-mania, une hystérie collective digne des plus grands moments des Beatles. Toute cette attention est pesante, voire terrifiante en fait, pour Agnetha et Frida, qui passent leur vie dans les chambres d'hôtel à attendre le concert du soir. Alors que Benny et Bjorn, rodés depuis leurs jeunes années aux tournées incessantes, en redemandent. La tournée en Australie contribue donc un peu plus à l'éloignement au sein des deux couples. À leur retour en Suède, Agnetha, Bjorn, Benny et Frida se réfugient à Vixo. Loin de toute cette agitation, ABBA fait une pause. Mais des rumeurs commencent à courir. Les deux familles connaissent des difficultés. Alors qu'ils sont au sommet musicalement, les ABBA sont déchirés de l'intérieur. Agnetha, qui déteste prendre l'avion, vit de plus en plus mal la notoriété. Elle veut se consacrer à ses enfants. Un petit Christian a vu le jour fin 1977. Mais Bjorn, lui, ne rêve que d'une chose, repartir en tournée. Côté Benny et Frida, même s'ils se marient en petit comité en octobre 78, l'ambiance non plus n'est pas vraiment au beau fixe. Frida dira des années plus tard que s'il n'y avait pas eu ABBA, le couple se serait séparé depuis bien longtemps. Mais voilà, Agnetha, Bjorn, Benny et Frida sont enchaînés à ABBA, une machine à tubes qu'ils ne peuvent plus vraiment quitter. Chiquitita, you and I know. Et en janvier 1979, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Bjorn et Agnetha se séparent. Officiellement, ni cris ni larmes. Ce divorce est le fruit d'un accord commun. ABBA va pouvoir continuer à fonctionner normalement. En réalité, cette rupture est beaucoup plus profonde, car la vérité est tout autre. Depuis quelque temps, Bjorn a entamé une liaison avec la meilleure amie de sa femme, Lena. C'est avec elle qu'il a décidé de partir vivre. Agnetha est anéantie, mais elle ne le montre pas. Elle restera professionnelle jusqu'au bout, jusqu'à chanter magnifiquement dans The Winner Takes It All, la fin de sa propre histoire d'amour, écrite par son ancien compagnon. Une histoire d'amour dont elle le sait, elle est la grande perdante. The winner takes it all, the loser standing small. On est en 1981, l'album Super Trooper d'ABBA, porté par le tube de Winner Takes It All, est de nouveau couronné de succès. Mais rien ne va plus au sein du groupe. Après Agnetha et Bjorn, c'est Benny et Frida qui viennent à leur tour d'annoncer leur divorce. L'ambiance est franchement glaciale dans le groupe. Rien que de réunir le quatuor pour une séance photo relève de l'exploit. Chacun arrive et repart désormais de son côté. Le dernier enregistrement en studio est un calvaire. Et pour les vidéos qui accompagnent les titres, les clips, chacun tourne sa scène de son côté. Et ce qui devait arriver arriva. En 1982, 10 ans seulement après leur formation, la fin d'ABBA est signée. Agnetha et Frida veulent se lancer dans une carrière solo, alors que Benny et Bjorn ont déjà en tête un nouveau projet ensemble, une comédie musicale. Officiellement, les ABBA font une pause, sauf qu'ils ne se reformeront jamais.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.
On est le 19 novembre 1982. Agnetha et Björn, Benny et Frida, deux couples et quatre personnalités qui auront tout connu ensemble. L'amour, l'argent et le succès se retrouvent pour une émission de télévision aux allures de veillée funèbre. Benny est assis au clavier, Björn est à la guitare 12 cordes, Frida et Agnetha sont, elles, coude à coude sur le piano. La complicité entre ces quatre-là s'est envolée. Étonnamment, ce sont presque des étrangers les uns pour les autres. Les quatre artistes, devenus des légendes vivantes, en Suède comme dans le monde entier, entonnent leur chant du cygne avec un morceau prédestiné, Thanks for the Music. Cette émission de télévision sera la dernière fois où ils joueront ensemble. ABBA a beau avoir prévenu qu'ils ne se reformeraient jamais, des millions de fans à travers le monde rêvent encore de revoir un jour ces quatre personnes se retrouver sur scène. Et pourquoi pas chez eux, en Suède, pour la finale de l'Eurovision le 11 mai 2024. Exactement 50 ans après avoir conquis le monde. Sur RTL, c'est Confidentiel, épisode consacré à un groupe hors du commun, ABBA.
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes.
Sur RTL. Jean-Marie Potier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes journaliste musical, biographe d'ABBA, avec pas mal de livres à votre actif, mais aussi commissaire de la grande exposition sur le groupe mythique suédois. On va revenir sur tout ça. Je citerai juste là maintenant votre dernier ouvrage, Le Soir, qui a changé ma vie. C'est aux éditions Ola, ça a évidemment un rapport avec ABBA. On va en parler dans un instant. André Thoron, bonjour.
Bonjour Ophélie.
Ancienne grande voix d'RTL, chroniqueur de musique populaire, intarissable d'histoires et d'anecdotes. Je rappelle que c'est à vous que l'on doit sur notre station le lancement du Hit Parade. On est très heureux de vous avoir. Soyez le bienvenu, André.
Très heureux. Aussi.
Alors, l'un comme l'autre, comment on devient déjà passionné d'ABBA, Jean-Marie ?
Eh bien, nous sommes le 6 avril 1974. J'ai 13 ans. Je regarde pour la première fois le concours Eurovision de la chanson. Et parce que je suis chez ma grand-mère en Belgique.
Ouais.
Et donc, j'ai l'occasion de voir le concours. Et je suis sur le point de m'endormir. Quand arrive Agnetha et Frida sur le podium, comme ça, elles courent dès l'intro musicale, c'est un coup de foudre que je compare souvent à un coup de foudre amoureux.
Ah oui. Et là,
une passion qui démarre et dès j'apprendrai seulement le lendemain.
Un début de nouvelle
victoire.
Vie pour vous.
Voilà, absolument.
Ah oui, et puis vous n'avez pas su, vous étiez petit, donc vous n'avez pas regardé le concours jusqu'au bout.
Non.
Et vous avez su seulement le lendemain qu'ils ont gagné. Quel effet ça vous a fait d'ailleurs ?
Ah, j'étais en apesanteur, en état d'apesanteur. Je ne touchais plus le sol. Ouais. J'espérais leur victoire, mais c'était pas gagné d'avance. Donc voilà. Et puis cette passion de disque en disque. Et je trouvais que chaque disque était meilleur que le précédent. C'était incroyable. Mmh. Cette passion est née le 6 avril.
Le 6 avril 74, date maintenant qu'on connaît bien. André Thoron, comment on devient ? Qu'est-ce qui mène à ABBA ?
ABBA, c'est extraordinaire. 6 avril 74, 500 millions de téléspectateurs. Et on découvre, en fait, un groupe qui a séparément 10 ans de carrière, 10 ans de travail derrière lui. Et en une soirée, c'est l'Europe entière qui découvre ABBA, A-B-B-A. Mmh. ABBA, qui était une marque de conserve de poisson en Suède à l'époque.
Ouais, alors l'Eurovision 2024, c'est ce soir, messieurs, vous allez regarder ?
Oui.
Évidemment. Je rebondis sur la dernière phrase de notre récit. Il y a un espoir, elle est la suivante. Est-ce qu'il y a un espoir de les voir tous les quatre sur scène ce soir, les quatre ABBA, Jean-Marie Potier ?
Pas sur scène.
Ça veut dire quoi cette réponse ?
Je n'ai pas de détails sur ce concours, sur ce qui va se passer ce soir, mais je peux vous dire que non, ils ne seront pas présents sur scène physiquement.
Vous avez l'air vraiment sûr.
Oui.
Parce que pourtant, on dit toujours qu'on peut toujours être surpris avec ABBA.
On peut toujours être surpris. On l'a vu en 2021 avec cet album Voyage. Ils ont surpris tout le monde. Mais non, Agnetha et Frida ne souhaitent plus, elles n'aiment pas trop le cirque médiatique. Mais je pense que tous les quatre ne peuvent pas passer à côté de remerciements, d'un hommage au concours Eurovision, à ces 50 ans qui se sont écoulés. Et au fait que le concours les a révélés, les a fait passer de l'ombre à la lumière en quelques minutes. minutes. Donc je pense qu'il y aura un petit film dans lequel, enfin je l'espère, dans lequel ils vont remercier les téléspectateurs, les spectateurs, voilà, le monde entier.
Un petit film, vous dites, André Torrent, il pourrait ressembler à quoi ce clin d'œil d'Abba ce soir?
Ben, remerciement d'un cadeau extraordinaire, puisque c'est vraiment le titre qui les a fait découvrir, parce qu'en fait, ils avaient déjà voulu participer au concours Eurovision l'année précédente, mais ils n'avaient pas été retenus avec le titre Ring Ring, qui pourtant a fait un succès en Suède. Ensuite, et même en Belgique.
Ouais. Comment ils vont tous les quatre aujourd'hui? Ils se parlent, ils se voient, ils s'entendent bien?
Oh oui, oui, oui. Ils sont absolument, ils n'ont jamais été fâchés. On a vu en 2021 cet album Voyage. Mmh. Ils ont vécu un réel bonheur dans le studio de se retrouver tous les quatre. Björn l'a souvent dit, c'est comme quand j'ai vu Agnetha et Frida devant les micros, c'est comme si on avait notre carrière s'était passée la semaine dernière ou le mois précédent. La magie, elle est revenue. Il avait la chair de poule d'ailleurs de les entendre chanter toutes les deux leur voix à l'unisson sur certains titres. Donc ils ne sont pas fâchés. Et dans cet album Voyage, il y a un titre qui s'appelle I Still Have Faith in You et qui raconte justement les liens qui les unissent, des liens d'amitié, des liens professionnels, des liens aussi amoureux. Ouais. Voilà, ce sont deux ex-couples et cette fidélité qui a toujours été là pendant ces 50 années. Donc non, ils s'entendent vraiment très très bien.
Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, après la victoire, Abba était un peu méprisé. On parlait de cette étiquette Eurovision, parce qu'à l'époque, il y avait aussi les Rolling Stones. Enfin, c'était écouter Abba, c'était un peu ringard quand même.
Bon, il y avait bien sûr la compétition entre les Stones et les Beatles, mais en fait, la compétition avec Abba, ça a été plutôt le groupe Les Roubettes, avec Sugar Baby Love. Mm. Et plus tard, sur la France, ça a été plutôt Boney M qui faisait la guerre et ils ont vendu Abba et Boney M autant de disques, mais simplement Abba a mis deux fois plus de temps pour les vendre.
C'est ça, il a fallu quand même un peu se détacher de cette étiquette Eurovision, Jean-Marc Petit.
Oui, 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 oui. Et puis, comme vous disiez, bon, le monde du rock les méprisait, parce que c'était un groupe pop avec deux très belles filles qui chantent merveilleusement bien. Ça faisait pas rock. Oui. Ils n'étaient pas du tout dans ce cliché sexe, drogue et rock'n'roll. Mm. C'était deux couples sages. Donc c'était pas bien vu. Ils ont mis du temps à s'imposer après le concours Eurovision, à décoller cette étiquette, comme vous dites, parce que, en général, les vainqueurs de l'Eurovision avaient l'habitude de disparaître très vite, au bout d'un ou deux disques après leur victoire.
Oh, c'est souvent le cas, en plus, encore aujourd'hui.
Absolument.
Ah bah, c'est pas un épiphénomène. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des génies de la musique aussi. Par exemple, ils arrivaient à mélanger les styles musicaux comme personne, Jean-Marie.
Oui, absolument. Dans leurs racines musicales, Frida vient du jazz. Oui. Agnetha vient de la variété. Björn vient de la musique folk. Benny vient du rock et de la musique classique.
Et ils ont réussi à entremêler ça magnifiquement, en fait.
Absolument. Dans la musique d'Abba, si on écoute bien certains morceaux dans leurs albums, il n'y a pas que dans les tubes, on entend, il y a de l'opéra, il y a du classique, il y a du rock, il y a de la musique folk, il y a de la chanson française, de la chanson italienne. Tout ça, c'est l'ADN d'Abba. Mmh.
Alors on est dans Confidentiel on promet aussi de révéler un peu les zones d'ombre, la face cachée un petit peu des grands destins et des grands succès. La principale zone d'ombre du groupe Abba, c'est finalement leur vie privée, vous pensez?
Leur vie privée, zone d'ombre, il y avait des problèmes bien sûr.
Objectivement, c'est quand même challenging d'être un groupe et puis de se dire que voilà, c'est aussi deux couples. Hein, un couple, ce serait déjà challenging. Et donc là on est sur
deux vrais couples.
Et donc, avec
Agnetha et Björn.
On peut imaginer quelques jours où ils se réveillaient, il y avait un peu de la tension, quoi.
Bien sûr, et de la tension dans le studio, parce qu'ils étaient 24 heures sur 24, quasiment ensemble. À travailler en studio. Donc, c'était à l'intérieur de chaque couple des tensions. Moi, leur ingénieur du son m'a dit un jour, c'était tellement tendu parfois en studio que j'imaginais le soir, en rentrant à la maison, en préparant le dîner, dis donc, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? Où ils ne se parlaient pas en rentrant à la maison. Ouais, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a peut-être aussi pesé dans la balance à la fin. Bon, même s'ils avaient envie de faire autre chose, de toute façon, il y avait les divorces. Björn et Agnetha divorcent en 79. Mm. Frida et Benny divorcent en 1981. Mm. Donc là, c'est la fin d'Abba.
À quel moment, juste avant les divorces, à quel moment se crée le fossé, vraiment, où on sent que ça va être le point de rupture?
1978. suite. Moi, je peux vous le dire. Je les ai approchés à cette époque-là à deux reprises. Mmh. Et déjà en 1978, c'est-à-dire peut-être quelques mois avant l'annonce du divorce, Björn et Agnetha faisaient déjà chambre à part à l'hôtel Hilton de Paris.
Ouais. Donc ça raconte évidemment qu'à ce moment-là, côté intime, ça se passe pas idéalement. On le dit, c'est le titre, hein, c'est l'angle finalement de ce récit confidentiel. Ah bah, c'est tant la réussite de la musique que la défaite de l'amour.
Oui, c'est vrai. C'est il y a les succès, un succès mondial. Et puis à côté de ça, il y a le revers de la médaille, des tensions dans les couples, des hauts, des bas.
Mmh. Mmh. André.
Bah oui, Waterloo déjà, c'était toute l'histoire. C'était une défaite. Ça n'était pas la défaite de Napoléon comme certains l'ont pensé en disant mais c'est horrible de faire une chanson sur autant de morts. Mais c'était pas ça du tout. C'est simplement voilà la défaite dans un couple. Et aussi il y a une autre chanson que j'aime particulièrement de Winner Takes It All qui dit la même chose. Hein. Le gagnant il prend tout et dans un divorce il y a celui qui prend. De toute façon même dans les couples il y a celui qui aime et celui qui se laisse aimer ou celle.
En Suède, Jean-Marie Potier, je sais que vous avez vécu en Suède. Abba en Suède, c'est quoi? Pour qu'on comprenne bien.
Ah ben ce sont des
moi, j'ai ma petite idée.
Ce sont des gloires nationales.
Et voilà, j'ai une copine suédoise qui vit en France depuis toujours. Et quand elle parle de la Suède, à un moment donné, elle dit « Et puis nous, en Suède, de toute façon, on a Abba ». C'est drôle et ça revient systématiquement. Donc vous confirmez.
Oui. Ah oui, je confirme. Gloire nationale, des monuments presque.
Ouais,
Et ils ont leur musée à Stockholm maintenant, qui a ouvert en 2013. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu quand même attendre les années 90 pour qu'ils soient vraiment reconnus par les Suédois. Dans les années 70, ils faisaient grincer des dents, surtout les professionnels de la musique.
Et ça a changé dans les années 90, après tout le succès finalement et ils sont, c'est la fierté nationale.
Fierté nationale, totale. Ouais.
Ce qui était génial avec Abba déjà, c'est de s'appeler Abba parce que quand on a les initiales des prénoms Agnetha, Björn, Benny, Annie Fried, surnommée Frida, mais ben ça colle. Hein. A B B A. Déjà il y a l'aspect marketing, on a inversé le premier B, donc ça fait vraiment un logo. Mm. C'était une marque de conserve de poisson. Ils en ont fait un succès mondial dans la chanson. Et puis surtout, Abba avait un avantage surtout dans les premiers temps chez les disquaires. Il y avait les vinyles, les 30 cm, les 33 tours, et le premier qu'on trouvait dans les bacs, forcément, commençait par la lettre A, par la lettre B. Et donc, c'était le disque qui était le plus mis en évidence chez les disquaires, c'était toujours le dernier 33 tours d'Abba.
Mais c'est important de le rappeler parce que même si, voilà, aujourd'hui, on recherche de la musique différemment, là, c'était, il y avait la pochette, on avait la pochette sous les yeux systématiquement. Jean-Marie.
Et moi, j'aime dire, vous savez, qu'ils ont été les meilleurs ambassadeurs de Suède dans le monde. Ça, on peut le dire.
Oui, non, c'est vrai. Un mot, Jean-Marie Potier, sur l'expo dont vous êtes le commissaire. Il reste quelques jours pour la découvrir.
En fait, j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs, elle est prolongée jusqu'au 1er septembre.
Bravo.
Voilà.
Alors,
gros succès.
Vous avez 15 secondes pour nous donner envie d'aller la voir. C'est parti.
Plongée dans la carrière d'Abba, dans leur parcours, dans leurs images, les vidéos, des photos. On va des années 60 à aujourd'hui. Mmh. Donc on traverse comme ça. Il y a 5 espaces dédiés aux différentes époques. Il y a 22 costumes qui sont des répliques exactes de leur costume créé par un créateur suisse qui s'appelle Richard Guyver, parce que nous n'avons pas pu avoir les originaux, ils sont au musée à Bas, on n'y touche pas, on ne les sort pas, mais là ce sont des répliques à l'identique, à la paillette près.
Ouais.
Et l'exposition est à Waterloo.
Oui, à Waterloo, au musée du domaine de la bataille, au pied de la butte du Lion.
Je le répète, hein, ce soir c'est l'Eurovision, 50 ans, anniversaire des 50 ans de la victoire d'Abba. Pour tous les jeunes qui vont regarder l'Eurovision, si vous vouliez dire un mot sur Abba à ceux qui si vous vouliez dire un mot d'Abba à tous ces jeunes qui vont regarder l'Eurovision et qui vont peut-être entendre parler d'Abba pour la première fois ce soir, vous diriez quoi, Jean-Marie Potier?
Si c'est la première fois qu'ils entendent parler d'Abba, je leur dirais écoutez tout de suite leur chanson et que derrière les tubes il y a aussi des pépites sur les albums, et puis je leur dirais aussi que ces artistes qui se produisent, quel que soit leur âge, à mon avis ont un petit peu d'Abba en eux et dans ce sont des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants d'Abba.
Tous les artistes ont un peu d'Abba en eux.
Maurice Ravière sur RTL avait une jolie phrase, il disait « Oh, Abba, Abba, il y a de beaux morceaux pourtant ».
Merci beaucoup à tous les deux. André Torrent, chroniqueur musical, c'était un plaisir de retrouver votre voix sur RTL. Jean-Marie Potier, biographe d'Abba, je cite entre autres Abba, les coulisses du succès chez Renaissance du Livre. Il était une fois Abba chez Hugo Images. Et puis votre livre le plus récent, Le Soir qui a changé ma vie. Il est un peu question d'Abba. Un tout petit peu. C'est aux éditions Ola. Et donc c'est un récit autobiographique. Et puis évidemment l'exposition qui est donc prolongée jusqu'au mois de septembre.
Merci Ophélie.
À très bientôt sur RTL.
À bientôt Ophélie.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Abba, un épisode écrit par Thomas Pierre, réalisé par Dany Matouk et programmé par Marie-Caroline Mandon. Si vous nous rejoignez, rendez-vous sur RTL.fr ou sur l'appli RTL pour le découvrir. Il est déjà disponible, ainsi que tous les autres épisodes de Confidentiel et les versions enrichies de toutes nos interviews.
RTL Confidentiel. Ophélie Meunier.